emprunté au répertoire de Bobby Bland, Ain't No Love, donc extrait de ce Best of Qualifier Years on the Road, et c'est avec ça qu'on démarre cette deuxième heure, ainsi que bien sûr avec l'album de Mr. Matt. On va avoir Mr. Matt au téléphone juste dans quelques minutes, juste après ce titre qui s'appelle Jouer dans le vent. Voilà, j'aimerais bien qu'on écoute ça tout de suite, et puis si ça veut bien fonctionner, ce serait pas mal. Voilà, Jouer dans le vent, Mr. Matt. Et juste après, l'interview en direct. Vous posez toutes vos questions sur le Facebook Sweet Home Chicago. A tout de suite.
Des millions d'étoiles qui se tissent et la mer juste en dessous. Regarde maman, je vole, je glisse vers l'infiniment doux. La colère, puis l'amertume, temps échoué, puis compagnon. Regarde papa, ce beau costume, costume de caméléon. Je pars juste jouer dans le vent. Mathéo, je suis juste derrière le virage. Fermez les yeux, je suis au centre, si l'envie vous prend de crier. Maman, je suis juste dans ton ventre, le ventre de toute l'humanité. Je pars juste jouer dans le vent. La brise dans vos cheveux. Regarde ma sœur, je t'aime d'amour, je suis les larmes de tes yeux.
Ça fait partie du dernier album de Mr. Matt qui s'appelle Désespérément Optimiste. Je suis au téléphone avec Matt. Bonjour Matt.
Salut Marc.
Ça va bien ?
Oui, bien toi ?
Bon, écoute, c'est un petit peu, on va dire 4 sur 5 la réception, mais ça devrait aller quand même.
Alors, ça marche.
C'est la loi du direct, hein, forcément. Matt, il y a des gens qui t'écoutent en ce moment, parce que figure-toi qu'on n'est pas que tous les deux. Voilà, on passe à la radio, et puis je me suis dit, tiens, ça serait sympa s'il pouvait y avoir 2-3 auditeurs. Et en fait, j'ai tout plein de questions à te poser. Alors déjà, j'en avais préparé 2-3. Et j'ai trouvé qu'il y a une question d'un des auditeurs qui est vraiment sympa pour démarrer cette interview. C'est une question d'Arnaud Didier qui te pose une question simple. Mais qui êtes-vous, Mr. Matt?
Qui je suis? Écoute, qui je suis?
Il n'y a pas plus ouvert comme question, j'ai l'impression.
Il n'y a pas plus ouvert comme question. Écoute, je suis Matt, je suis chanteur, guitariste, je fais de la musique depuis pas mal d'années. J'avais un groupe avant de me lancer en solo qui s'appelait Mountain Man, avec qui j'ai tourné pendant pratiquement 10 ans. Et là, cette année, j'avais un rêve de gosse, c'était de sortir mon premier album solo pendant une période de confinement, et c'est fait.
Voilà, et ben c'est super bien résumé, effectivement. Tu t'en sors super bien, Matt. Précisons que tu n'en es pas tout à fait à ta toute première interview. Il y en a d'autres et de futurement célèbres, on va dire, parce que voilà, ce qui t'arrive en ce moment, on va en parler bien sûr. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à la genèse au début, et puis ouais. On va parler de Mountain Man bien sûr, et puis ensuite on va parler du présent et de l'avenir. On a tout notre temps. On pourra écouter d'ailleurs les intros de ces titres là qui émaillent ton nouvel album. Ouais, avec grand plaisir partagé, vraiment. Je voulais d'abord savoir, parce que c'est pas même pas la toute première fois qu'on se parle au poste, mais ouais. Peut-être que les auditeurs n'étaient pas là ce jour-là. Comment est-ce que tu es tombé dans la marmite de la chanson et dans la marmite du blues, et savoir si c'était le même jour?
Je sais pas si c'était le même jour. Ben, en fait, je crois qu'on fait tous pareil. On fait avec ce qu'on entend à la maison, et quand t'as l'oreille interpellée par quelque chose. Moi, j'ai grandi avec ça, surtout avec la chanson, surtout avec Brassens, surtout avec Brel et ce genre d'artistes. Et le blues, j'y suis venu un peu plus tard parce que j'étais dans le rock, même dans le métal, dans pas mal de choses. Et puis, cette musique, le blues, était toujours quelque part par là. Et puis à l'âge de 15 ou 16 ans, j'avais eu la chance d'aller voir B.B. King en concert.
Yes.
Et j'avais pris une rouste, quoi, mais vraiment, j'avais dit, ça me parle. Ouais, il y a un truc là-dedans qui me parle. Alors, bien que je me considère pas comme un puriste du blues, en tous les cas, ma musique prend sérieusement ses racines dedans, ouais.
Voilà, parce que le blues a émaillé ta jeunesse, et puis voilà, ta vie musicale de jeune adulte. Et ensuite, en tant que musicien, ça a été d'abord la chanson, puis le blues, ou toujours les deux?
Bah, ça a d'abord été la chanson, parce que les premiers concerts que je faisais à côté de chez moi en Chartreuse, dans un petit cafcons où je faisais 2-3 concerts par an, je chantais essentiellement du Renaud ou du Brassens ou du Brel, voilà. De temps en temps, je mettais un petit morceau de blues, un petit truc. Et puis finalement, j'en ai mis de plus en plus. Mmh. Et puis, je me suis mis plus sérieusement, entre guillemets, à cette musique quand j'ai rencontré Yano de Mountain Man.
Voilà.
Et puis, on s'est mis à faire notre premier album et qu'on s'est mis vraiment à faire. Ça a été vraiment un... le blues a été le point de rencontre, en tout cas, de cette aventure.
C'est ça, parce que ça, c'est la question qui allait venir, justement, cette rencontre avec Yano. Moi, je vous connais tous les deux depuis 2006, quand vous vous êtes produit à ce fameux tremplin blues sur scène à Mantes-la-Jolie. Il y avait déjà eu quelques mois d'existence du duo précédemment, mais dans la vie d'un musicien, il y a forcément plein de rencontres. Celle avec Yano, tu la qualifierais
c'est une rencontre importante dans ma vie, en fait. Hein. C'est cette rencontre avec Yano qui m'a vraiment décidé à me... Avant de rencontrer Yano, je faisais un peu de musique. Je pense que j'avais toujours eu le rêve secret intérieur que de vivre de la musique et de faire de la musique, mais j'en faisais pas vraiment sérieusement, j'allais dire. Je jouais pour moi déjà, j'écrivais pour moi, et puis je faisais quelques concerts, je te dis, à côté de la maison.
Ouais.
Et puis j'étais celui à qui on passait une guitare le samedi soir quand on buvait des bières et qui chantait trois chansons, quoi.
Voilà.
Le fait de rencontrer Yann m'a mis un peu j'allais dire le pied à l'étrier de te dire, bah tiens, et si on faisait quelque chose vraiment de sérieux, quoi. Et voilà.
Voilà, parce qu'au départ, c'était un amusement, c'était un passe-temps, c'était un loisir, c'était déjà une passion quand même, mais t'avais pas forcément l'idée de devenir musicien professionnel.
Ben, j'avais ça dans un coin de la tête, mais c'était plutôt inconscient. J'avais pas. C'était là, quoi. C'était là. Je savais que faire de la musique, c'est ce qui me rendait heureux, mais peut-être que je ne savais pas encore le dire, quoi.
Est-ce que j'ai raison de dire qu'au départ, votre duo avec Yano s'appelait Matt and Yano, et que le titre de votre premier opus, c'était Mountain Man, et non pas le
Exactement,
nom de groupe.
Ouais, tout à fait. Ouais. C'est le tout premier disque qu'on avait fait. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que notre premier album, c'est Springtime Coming, mais il y a un album avant.
Oui.
Qu'on a sorti en tout petit peu d'exemplaires, parce qu'on l'avait fait chez nous, on l'avait enregistré chez un gars qui s'appelle Patrick Argentier en Chartreuse, et qui d'ailleurs maintenant est le batteur d'Yano, et c'est la petite aparté, donc on avait sorti ce petit album pour faire quelques gigs autour de chez nous dans les bars et des choses comme ça, quoi.
C'était fait il y a... C'était il y a une petite quinzaine d'années. Tiens, j'ai une petite question musicale pour toi, Matt. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ça?
Ouais.
Forcément.
Bah, c'est le premier album, justement, Daddy, ça s'appelait cette chanson.
Voilà, exactement. C'est Daddy, c'est ainsi que s'ouvre ce disque dont tu viens de parler, qui est sorti à très très peu d'exemplaires, tu disais, alors.
Ah bah ouais, je pense qu'on l'a sorti plus, je sais plus, mais je crois qu'on l'avait sorti à 1000 exemplaires, quelque chose comme ça.
Voilà. Et il y a déjà la voix, il y a déjà ta voix qui est là. Enfin, quand je dis il y a déjà.
Ouais, ouais, bah ça fait au moins 10 ans que j'ai pensé.
C'est vrai ?
Ah ouais, je te jure. Je sais même pas si je l'ai dit.
Tu sais même pas si tu l'as encore, ça c'est hallucinant.
Je sais même pas si.
Bah écoute, tu sais quoi, je te le graverai à l'occasion.
Avec plaisir.
Excellent. Voilà. Alors, ça, c'est des balbutiements, c'est les débuts de ce duo. Ensuite, il y a eu le tremplin. Ensuite, il y a eu votre victoire, justement, en tant que meilleur groupe électroacoustique de l'année, en 2006, à Mantes-la-Jolie. Il y a eu ensuite la possibilité de défendre votre répertoire sur Memphis. Et puis, bah, voilà, on va pas refaire toute la carrière de Mountain Man. Mais en tout cas, ça a été plus qu'une parenthèse. Ça a été toute une vie à deux, finalement, pendant plus de 10 ans, non ?
Bah ouais, ça a été 4 albums studio, 2 albums live, ça a été 700 concerts, ça a été des gigs un peu de partout, dans pas mal de pays, l'Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, enfin vraiment partout. On est allé vraiment dans pas mal de pays, et c'est une pure aventure parce que c'est presque plus de 10 ans de notre vie, quoi. Jusqu'à notre dernier album où on était 4, on a rajouté 2 musiciens, mais bon, en tout cas, l'aventure Mountain Man, c'est cette rencontre en 2005 et 2006, ce petit album qui est pas encore sous l'égide Mountain Man, et le vrai album Mountain Man, c'est 2009. Springtime Coming, donc 2009, voilà. Fin 2018, on ne s'est pas arrêté. Ouais.
C'est ça, voilà. Donc, une bonne dizaine d'années, on va dire, de cette collaboration qui s'est arrêtée, donc qui a commencé à 2, qui a continué et qui s'est terminé avec 4 musiciens. Ouais. Et puis voilà, des morceaux, des albums. Moi, j'ai quand même envie de te poser une question. Est-ce que tu continues à écouter les disques de Mountain Man ? Et si oui, quel est celui que tu préfères ? On va voir si c'est le même que le mien, justement.
J'écoute pas forcément Mountain Man. Là, dans mon spectacle que j'ai avec mes musiciens, je joue quelques morceaux de Mountain Man.
Oui.
Après, j'aime beaucoup tous les albums. Si j'avais un album à garder, c'est difficile de demander ça, mais ça serait Hope quand même.
Et ben voilà, c'est exactement.
Ouais, je sais que tu allais dire ça parce que je sais qu'il y a une chanson que t'aimes bien dessus.
Ah ben une chanson, comme tu dis, oui. Move Up to the Door, par exemple.
Move Up to the Door, ouais, je me souviens.
Ah ouais, tout l'album, franchement, est superbe. Il y a un autre aspect, on en parlait en filigrane tout à l'heure en début d'interview, un autre aspect de ton talent qui transpire beaucoup, notamment à travers ce titre-là. Allez, on écoute quelques secondes. Toujours la participation du public, hein, il faut le signaler. Ouais. Très important, le public, c'est le troisième musicien. Hein,
La Camargue qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille.
Voilà, supplique pour être enterré à la plage de Sète. Ça fait partie d'un double album de 19 titres que vous aviez créé.
Qui
s'appelle tout simplement Mountain Man chante Georges Brassens, en live. Tu gardes quel souvenir de ça plusieurs années après ? C'est pas si vieux que ça, mais...
Mais ça s'est fait un peu sur un coup de tête. On était en plein justement dans la tournée de Hope et on avait fait un concert à Saint-Malo et on avait dit on l'enregistre et le mec en question... qui était un bon pote, qui avait une radio justement qui s'appelait Radio Sing Sing, qui existe toujours je pense, et qui nous avait dit, mais moi putain, il savait l'amour que j'avais pour Brassens, il nous avait dit, mais fais-moi un live Brassens. Finalement, on a enregistré ce live, moi ça faisait quelques temps que j'avais pas joué de Brassens, Yannou n'avait jamais entendu les chansons, on l'a enregistré et on l'a sorti. Le lendemain, en réécoutant les bandes, on a appelé notre maison de disques, ouais. En disant, voilà, on a enregistré ça, Si ça, est-ce que ça vous branche de sortir? Et si ça vous branche pas de sortir, on sort quand même.
Ouais, d'accord. Donc, ils se sont empressés de sortir. Et effectivement, ça a donné ce double live qui reste un excellent souvenir. En tout cas, ouais, 2013 hein, chez Yoko Prod. Voilà. Ton meilleur album pour celui que tu préfères de ta collaboration avec Yano Montelman, c'est Hope. À l'époque, je sais pas si tu te souviens ce que je vous avais dit, les gars, ça sera impossible de faire un meilleur album que Hope. Je vous avais dit ça.
Je sais pas si c'est impossible. En tout cas c'était moi, c'était l'album. Quand je te dis que c'était, je suis fier de tous les albums qu'on a fait. Même le dernier, j'adore le dernier album.
Ah bah moi aussi, bien sûr. Ça n'empêche pas.
Mais Hope, c'était vraiment c'était l'album un peu. C'était vraiment très 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 intime. En tout cas, pour moi, ça a été très très intime. C'est pas un album qui a été fait sous le régime de la démocratie.
Voilà. Très bien.
Mais c'était un vrai plaisir que de faire ce disque avec Yano.
Talk from the high upon your wall. It's your voice we love. It's true, you know. You got to what the people think they need. Someone else would pay to clean the mess you leave.
Voilà, ça c'était Egotistical, c'est avec ça que démarrait ce fameux album Hope, qui avait été disque de l'année 2012 pour Sweet Home Chicago, en passant comme ça.
Ouais, cool.
Et puis voilà, ensuite il y a eu Against the Wind, et puis tu en parlais, Black Market Flowers.
Ouais.
Et puis maintenant, il se passe autre chose pour toi, tu n'es plus dans Mountain Man n'existe plus, tu as ta carrière solo, tu n'es plus Mathieu Guillou, tu n'es plus Matt Guillou, tu es Mr. Matt.
Ouais, bah écoute, Mr. Matt est resté. Le Mr. Matt, c'est un peu une suite justement de l'histoire Montelman, parce que souvent les gens, comment ça va, Mr. Matt,
oui.
ça va, Monsieur Matt, bonjour Mr. Matt, finalement ça s'est imposé. Et puis, Montelman s'est arrêté pour diverses raisons, des envies différentes, l'envie d'aller voir d'autres choses, et puis, moi j'ai toujours eu l'envie de faire mon album, enfin en tout cas de monter un truc solo à mon nom et de faire en tout cas déjà mon premier album et puis de faire une carrière un peu solo, quoi.
Alors comment est-ce que c'est arrivé, parce qu'en fait je crois que discographiquement parlant, il y a eu une première sortie d'un mini disque à la rentrée de 2019, si je me trompe pas, avec notamment la reprise de Red Charles et puis celle de Cyndi Lauper notamment, ouais. Et puis ensuite cet album qui est sorti en mars mais qui ressort en ce moment parce que Covid oblige, il y a eu plein de choses entre deux, évidemment
ça a été un peu compliqué,
ouais. Il faut relancer tout ça, quoi.
Montelman s'est arrêté fin 2018 et moi à ce moment là j'ai eu quelques approches et quelques contacts notamment avec la personne qui est en tout cas très importante pour moi, avec qui je travaille en étroite collaboration, c'est Fabrice Nataf,
oui.
Qui est devenu mon producteur et bien plus que ça en tout cas, parce qu'il m'aide beaucoup dans le développement de ce projet. Tout de suite après Montelman, moi j'ai enregistré quelques titres. Et puis, avec l'envie de sortir déjà un premier EP, et puis au même moment, on m'a proposé quelques premières parties à la Cigale, on m'a proposé, et puis les bandes sont arrivées sur le bureau de DK et de Universal.
Ouais.
Et ça a été un enchaînement de choses, en fait, de DK, la proposition de DK, la proposition de Mélodie Gardot pour faire deux Olympiens avec elle. Et donc, ça s'est un peu enchaîné. Puis du coup, le premier EP est sorti à l'automne 2019. Donc assez rapidement, finalement. Et puis enregistrement de l'album Désespérément Optimiste au mois de décembre.
Voilà.
Et il est sorti le 20 mars, au tout début du confinement. Donc ça, c'est mauvais calcul.
Bah oui,
on peut pas prévoir tout. Mais bon, en tout cas, il est sorti à ce moment-là. Et puis après, pendant le confinement, j'ai essayé de mettre à profit cette période en enregistrant 5 morceaux pour faire un EP qui est sorti le 11 mai. Voilà.
Voilà, et donc s'en est suivi toute une série effectivement de promos, d'interviews dont on va parler tout à l'heure. Mais comme je te disais, on n'est pas les seuls à parler au téléphone. Il y a d'autres gens qui nous écoutent parce que c'est un petit peu la radio. Et il y a une question d'auditrice que tu dois connaître, qui s'appelle Anne-Bettina Brunet, qui te pose la question à propos de ce disque justement. Est-ce que ce super album aurait eu la même saveur entre guillemets s'il n'était pas sorti pendant cette période compliquée pour tous? Et elle ajoute, ce qui est terrible, c'est qu'il est sorti à la fois au mauvais et au bon moment.
Bah, il est sorti à la fois, alors il est sorti peut-être au bon moment pour ce qui est du propos. Après, pour ce qui est de l'aspect plus professionnel, non, c'est complètement le mauvais moment parce que du coup au niveau des ventes et de ces choses-là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, bah, je vais dire, ça c'est le jeu, et surtout dans une période comme elle est. Mais bon, en tout cas, moi je suis très fier de ce disque. Je suis très content que ce disque soit sorti. On a pris le pari de dire, ben, de toute façon, c'était lancé. Moi, la tournée devait attaquer le 16 mars.
Oui, d'accord.
Et on a été confinés le 14 mars, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ça a été comme ça. Quoi. L'album est sorti le 20 mars, donc difficile pour les gens d'aller en magasin pour chercher un disque.
Effectivement.
Et difficile de faire la promo comme on aurait dû la faire, mais je m'accroche, je lâche rien, et puis c'est une aventure qui, en tout cas mon aventure, débute comme ça.
Ah bah, te connaissant, je sais que tu ne lâches rien, Matt, il n'y a pas de problème. Anne-Bettina continuait sa petite remarque et sa question. Elle disait, j'en profite pour te remercier pour les partages du soir. Perso, ça m'a beaucoup aidé, je pense que je ne suis pas la seule. Et là, je pense qu'elle parle, bien sûr, du confinement. Et dès le day one, dès le premier jour, je crois que c'était le 17 mars, en fait. Dès le premier jour, tu as offert à tes fans un titre par jour, une reprise, enfin voilà, une vidéo. Ça a beaucoup compté pour pas mal de gens, j'ai l'impression.
Moi, en tout cas, ça a été un repère, ça a beaucoup compté pour moi parce que j'étais confiné chez moi et puis c'était un. J'ai essayé, je me suis toujours tout de suite dit, je vais essayer de faire quelque chose de qualité et de. Voilà, de pas de faire de la. Peut-être pas faire de la quantité, mais faire de la qualité. Et en tout cas, d'essayer de faire un petit créneau tous les soirs à 18h, que de passer un moment avec les gens, chanter une chanson. Donc voilà, ça a été. Ça a été un chouette moment que de dire ça. Et ça a aidé à passer cette période. Si ça a aidé et fait du bien un petit peu aux gens, c'est parfait. Mmh.
J'ai une question de Ronan, que tu connais peut-être aussi, Ronan One Man Band.
Ouais.
Et qui te dit, question pour Matt, donc il y en a pas marre d'avoir autant de talent.
écoute, je vais lui retourner le compliment parce que moi, on se connaît pas personnellement, mais je ziote un petit peu de temps en temps, je regarde un peu ce qu'il fait et c'est vachement chouette. Donc on aura bien l'occasion de se croiser un de ces moments. Je sais pas si j'ai pas plus de talent, je crois pas avoir plus de talent que quiconque. Moi je crois encore à des vertus qui sont peut-être passéistes, mais je crois encore au travail, aux choses comme ça.
Ouais. Oui, il y a combien de pourcents de travail, combien de pourcents de talent dans ce que tu fais?
Je sais pas, je crois que c'est justement mon producteur Fabrice qui me disait, le talent, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dévoyer ce qu'il a dit, mais le talent est un don et la réussite est un métier. Donc je pense qu'il doit y avoir un mélange de tout ça. Je sais pas comment j'aurais même honte de dire que j'ai beaucoup de talent. Je ne suis pas capable de le dire, ça. Moi, j'essaye de faire de la musique, humblement, simplement, et de faire ce que je sais faire. Et tu sais, j'ai toujours ce petit dicton que j'ai toujours quelque part à côté de moi qui dit soyez vous-même, les autres sont déjà pris, et j'essaie de m'atteler à ça. Quoi.
Si je peux poursuivre la phrase de Fabrice, que je ne connais pas, qui est ton producteur, je pourrais rajouter, le métier, ça sert surtout à tisser.
Ouais, bah certainement. Bah de toute façon, tu sais, sur un musicien comme moi, le mot artiste, j'ai un peu du mal avec ça aussi, mais en tout cas sur un musicien comme moi, je suis pas ce qu'on appelle forcément. Je rentre pas dans les clous de la mode. J'ai 40 ans. Je suis pas une petite nénette. Je chante, j'essaye de chanter ce que j'ai envie. J'essaye de faire, je te dis simplement, et de tisser, justement de tisser une toile avec les gens, de tisser un lien avec les gens, que les gens viennent te voir en concert, de passer un moment, et c'est en ça que je crois, moi. C'est en ça que je crois, de faire vivre ce projet de cette manière et de le faire vivre le plus longtemps possible, quoi.
Matt, tu crées, tu composes, bien sûr, depuis des années, mais tu fais beaucoup de reprises, et tu l'as dit, tu choisis toi-même, bien sûr, les gens que tu as envie de reprendre. Il y a une question, justement, toujours du même Ronan, ouais. Qui te demande, il serait curieux de connaître l'album ou l'artiste que tu écoutes en boucle en ce moment, si c'est le cas, bien sûr.
Alors en boucle, je sais pas. En ce moment, j'écoute beaucoup. Ça va pas être très. En ce moment, j'écoute beaucoup Tom Waits. J'écoute beaucoup Queen of the Stone Age. J'écoute beaucoup Brassens. J'écoute beaucoup plein de choses en fait. J'écoute toujours beaucoup de musique. En ce moment, oui, j'écoute beaucoup Tom Waits. Il y a un album magnifique qui s'appelle Mueller Vibration qui est juste splendide. J'écoute un peu ce qui me passe par là, ce qui me parle en fait, ce qui me touche. Il faut que ça me touche en fait. C'est comme dans la vie, il faut vraiment que ça soit dans le... Ouais, faut que ça me procure une émotion. Sinon, j'y arrive pas, quoi.
Matt, j'ai beaucoup de questions à te poser à propos de ton album, et puis on va passer tout à l'heure en revue les différents titres, mais il y a des gens qui te posent également des questions sur le Facebook, dont Patrice Rayon qui fait la remarque que les partages du soir, le fait de partager, ça a peut-être aidé à propager ce que tu fais. Il rajoute du talent, c'est sûr, mais tellement de travail acharné et de mérite surtout ouais, du mérite.
Pas plus de mérite, mais en tout cas le partage du soir, moi, ça a été une manière de continuer un peu l'entrain qu'il y avait des gens, parce que mon passage à Taratata a été plutôt bien reçu, et j'étais vraiment très bien accueilli, puis ça m'a ouvert vraiment plein de choses avec pas mal de gens qui sont mis à suivre ma page. Et donc moi, à ce moment-là, j'étais un peu démuni, parce que je me suis retrouvé avec ma guitare à la maison. Il y avait un Taratata, ça s'est super bien passé. Ouais. Mais je me retrouvais avec un album qui sortait tout seul chez moi, et de me dire mais ouais, et quoi, il se passe quoi maintenant? Donc c'était aussi un moyen de dire tiens, je suis là, quoi. Je suis là, et comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis plutôt un lâche rien, moi. Donc
effectivement, on peut parler de cette promo de ouf que tu es en train de faire. Donc il y a eu Nagui Taratata. On t'a vu au festival de Nice, Jazz Nice Festival, avec André Manoukian qui te présentait quand tu as fait cette fabuleuse reprise Georgia, qui paraît-il n'est pas de Ray Charles, mais enfin quand même c'est un morceau de Ray Charles, on va dire.
Non, elle n'est pas de Ray Charles, mais bon. Elle n'a pas de Ray Charles. Enfin, elle n'a pas été écrite par c'est Carmichael et je ne sais plus exactement. Carnegie Hall Michael, je crois qu'ils l'ont écrit. Après, elle n'a pas été écrite par lui, mais elle a été inventée par lui.
Ah, évidemment. Et puis Laurent Ruquier, parce qu'il y a eu son émission du samedi soir, on n'est pas couché. Je voulais savoir, tiens, une question toute personnelle. De toute façon, on est très peu nombreux à écouter. Il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'écho. C'est qui le plus cool des trois? C'est André Manoukian, c'est Nagui ou c'est Laurent Ruquier?
Oh là là, c'est difficile comme question. les trois sont super adorables. Vraiment. J'ai été vraiment accueilli avec bienveillance par les trois, et les trois sont des personnes vraiment charmantes, quoi.
Moi, je voudrais qu'on écoute ce disque en long, en large et en travers. On va avoir l'occasion de le faire au cours des prochaines émissions aussi, on y reviendra. Mais déjà, quelques intros, notamment ce titre qu'on a entendu en tout début d'émission. Tu peux nous dire qui l'a créé avec toi, ce titre-là?
Ouais, c'est un titre... avec Gaëtan Roussel.
Ouais.
C'est Gaëtan Roussel qui a mis sa patte là-dedans. Et quand il m'a proposé cette chanson, ça a été waouh. Ben ouais, ben c'est ça, mais en fait, il a tout compris, parce que c'est moi, quoi. Et ça me correspond vachement.
Donc les paroles, soyons clairs, les paroles et la musique, tout est de Gaëtan?
Alors, Gaëtan a fait la musique, et les paroles sont même pas de Gaëtan, sont d'une autre personne. Mais voilà, le titre m'a été proposé en disant tiens, est-ce que ça t'intéresse? Et puis d'en faire quelque chose à toi, quoi. Et quand on a reçu le titre, j'ai dit waouh, oui, carrément, c'est ouais. Ça me parle, quoi. Parce que les gens qui me connaissent un peu, ils savent que ça me correspond vraiment.
Et c'est justement pourquoi tu as choisi d'intituler tout l'album Désespérément Optimiste, et c'est aussi peut-être pourquoi il arrive en plage 1. C'est le titre qui a été le plus poussé, on va dire, pendant la promo du mois de mars.
Carrément, bien sûr, c'est le titre qui a été un peu mis en avant. Il y avait aussi la chance d'avoir la patte de Gaëtan Roussel sur cet album. Enfin, en tout cas, que Gaëtan me propose deux ou trois chansons, et qu'il propose de... qui me propose de réaliser de trois titres. Enfin, ça a été vraiment un vrai plaisir. Puis c'est pareil, c'est un amour de mec, une vraie pure rencontre et je le salue bien. Je sais pas s'il écoute.
Ouais, Gaëtan, je sais pas s'il écoute ou il écoutera en rediff. En tout cas, salut aussi. Et puis moi, je voulais quand même saluer cette rencontre parce que forcément, Gaëtan Roussel, c'est pas seulement le musicien qu'on connaît, c'est également un compositeur de musique de film qui commence à avoir déjà pas mal de choses à son actif.
Enfin, ouais.
Il a énormément d'univers différents. Je qualifierais peut-être de parallèle. Enfin, c'est un type qui est un petit peu télépathe aussi. J'ai l'impression, non?
Ouais, un petit peu, ouais, carrément. C'est rigolo d'entendre des chansons et de dire ouais, mais c'est complètement moi, quoi. Et vraiment, ça s'est imposé parce que c'était dire oui, c'est faisons-le parce que c'est ça.
Désespérément optimiste, je me ferai enterrer. Désespérément optimiste, à ressusciter.
Voilà, on est en direct avec Matt, Mr. Matt, pour parler de Désespérément Optimiste, l'album, et puis la carrière de Matt, la carrière passée, la carrière présente, puis la carrière à venir, tout à l'heure en fin d'interview. Et on va passer en revue les différents titres. On a écouté en entier tout à l'heure Jouer dans le vent.
Ouais.
Est-ce que c'est un titre qui aurait pu figurer sur un album des Mountain Men, Matt?
C'est un titre qui aurait pu figurer dans l'album des Mountain Men, ouais, complètement. Parce que je l'ai écrit à un moment. J'ai écrit cette chanson. On avait même fait une maquette de cette chanson avec Mountain Men. Et on avait commencé à la jouer. Et finalement, Mountain Men s'est arrêté pour ce que j'ai dit tout à l'heure, diverses raisons. Et c'est une chanson que j'avais écrite et que je voulais garder absolument parce que j'ai écrit pour un couple d'amis et leur fils Mathéo, qui est malheureusement, enfin, que j'ai vu grandir et que j'ai vu partir parce qu'il est malheureusement décédé, il avait 16 ans, d'une leucémie. Ils ont monté une association qui s'appelle l'association du petit Mathéo, je suis le parrain de cette association. Ils ont retapé une vieille maison cartusienne à Saint-Pierre-de-Chartreuse, en Chartreuse, pour accueillir des familles d'enfants malades avec des enfants malades pour leur donner gratuitement des moments à la montagne, dans des moments qui sont compliqués, quand les mômes ils ont des traitements un peu lourds. Et moi je voulais écrire cette chanson, enfin en tout cas j'ai écrit cette chanson un jour, juste après la disparition de Mathéo, et je voulais lui rendre hommage à ma manière, à lui, à ses parents et puis à sa sœur.
Échec Mathéo, je suis juste derrière le virage.
Mathéo, échec et Mathéo, hein, voilà, bien compris.
Ouais.
La candeur, l'innocence, la naïveté, moi je dirais la fraîcheur et l'enfance tout simplement qui transpire dans cette chanson.
Ouais, je voulais pas en faire quelque chose de tristouillé, je voulais juste quelque chose. Moi l'idée c'était de faire une espèce de chanson un peu lumineuse, quoi, et je crois que ça a, en tout cas, humblement marché. Ouais.
Après, il y a Simplement te dire, je voudrais savoir si c'est une chanson d'amour, Matt, ça.
Ça ressemble à une espèce de chanson d'amour qui se termine plutôt. Mais les histoires d'amour qui se terminent sont des histoires d'amour quand même.
Ouais, et tu penses comme Catherine Ringer que les histoires d'amour finissent mal en général ?
J'espère que non, je sais pas. Je crois que, comme je le dis dans une autre chanson, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais je crois que de toutes les histoires, qu'elles se continuent ou qu'elles se terminent, à la fin tu gardes le bon.
Vouloir être étonné, avoir de l'or, un avenir, être à l'affût en devenir, simplement te dire, simplement te dire, simplement te dire.
Voilà, simplement te dire, ça fait également écho, pas mal. Enfin, moi, j'avais envie de te demander si c'était vraiment une chanson d'amour. Et j'ai l'impression qu'il y a une, comme dans beaucoup de ce que tu fais, il y a pas mal de tensions émotionnelles, Matt.
Bah, de toute façon, je suis plutôt sous mes allures de gaz d'un mètre 90 et de 100 kilos. Je suis plutôt quelqu'un qui est. Je suis hyper sensible, les gens qui me connaissent le savent, je suis pas que quelqu'un d'à fleur de peau et de sensible, donc de tension émotionnelle, et puis je crois que je carbure à ça en fait. Je carbure à l'émotion et dans ma vie en général et dans ma musique. Ma musique c'est mon moyen d'expression, donc forcément il doit y avoir ça qui transpire un petit peu. Ouais,
ouais, forcément. La suivante s'appelle Pendant ce temps-là.
Pendant ce temps-là, ouais.
avec, comme très souvent, une intro et puis ensuite la guitare acoustique qui intervient sur la quasi-totalité de l'album.
Ouais.
C'est un retour vers les... Bah, pas forcément pour toi, parce que la guitare acoustique, t'as jamais quitté, mais par rapport à justement l'exposition de cet album-là, qui va rentrer finalement dans un créneau qui n'est pas forcément celui que tu connaissais au sein des Mountain Men,
ouais.
La guitare acoustique, c'est pas vraiment ce qu'on écoute tous les jours sur les radios très très écoutées.
Non, ben peut-être pas. Ben, tu sais, je crois que je sais plus qui c'est qui m'avait dit. Un gars m'avait dit, ah, tu sais, en ce moment la guitare c'est vraiment pas l'instrument à la mode. En ce moment c'est plus le synthé, c'est plus ces choses. Donc j'avais dit, bah ok, faisons de la guitare alors.
Excellent.
Donc
ça c'était en 85 ça, non?
Non, mais je crois que voilà, moi la guitare c'est un peu comme ma voix. Je veux dire, c'est... Tu sais, quand j'ai pas ma guitare dans les mains, je sais pas trop quoi faire de mes deux bras.
Ouais.
J'ai l'impression de deux grands trucs qui pendent à côté de moi, mais même si j'aime bien chanter sans ma guitare, mais ma guitare, c'est aussi mon moyen d'expression. Et mes chansons, quand je les écris, je suis avec ma guitare et elles sortent d'abord comme ça, quoi.
Alors des chansons en français, il y en a beaucoup, il y a également quelques chansons en anglais sur ce disque-là. Je pense à par exemple un truc un petit peu plus country qu'on va écouter tout à l'heure. En attendant, si je suis bien la chronologie de l'album,
il y a
ça.
Ouais,
alors là, c'est la patte de qui là au niveau du clavier, au niveau des arrangements?
C'est... Ah là, c'est la patte de Gaëtan aussi.
Voilà.
Et puis un peu la mienne aussi, parce que j'ai mis ma guitare. On en a fait une chanson à moi, quoi.
Avec tes arpèges, avec voilà, les accords posés, enfin.
Tous dit j'avance, tous dit ne reviens pas. On a tous dit patience, tous dit ça reviendra. On s'est tous dit romance, tous dit je ne sais pas. On a tous dit on danse, tous dit ça ira. On s'est tous dit. Tous dit tout ça. On a tous dit le moi.
Et c'est pas le seul morceau où il y a des allitérations, hein. C'est quelque chose qui est très amusant, hein, lorsque quand tu écris. Enfin, je sais pas, on a l'impression que tu te délectes un petit peu comme faisait un Brassens ou un Brel. Enfin, voilà, il y a une espèce de gourmandise dans l'écriture.
Bah, j'aime bien les mots, moi. Alors, tu sais, j'aime bien les mots, j'aime bien. Je crois que dans tout ce que je fais, un de mes piliers, c'est que moi j'ai besoin de faire quelque chose qui a du sens. Et j'ai besoin de raconter des choses qui ont du sens, en tout cas qui ont du sens pour moi, en priorité, mais si après ça a du sens pour les gens, bah, c'est parfait. Mais j'ai besoin de faire des choses avec du sens, sinon je n'arrive pas à le faire. Sinon je le fais pas, quoi. Depuis que je suis gamin, les choses... Si ma mère m'écoute, elle va gueuler parce que c'est à quel point j'ai rien foutu à l'école. Mais quand les choses qu'on me proposait qui n'avaient pas de sens, bah, je les faisais pas, quoi. Et je crois que c'est quelque chose que je ne pourrais pas changer de moi, encore plus maintenant à 40 piges.
Ah non, surtout pas.
Je fais ce que j'aime et quand j'aime pas ou quand ça me plaît pas, je fais pas, quoi.
Et pendant ce temps-là, il y a le titre Girl from the North Country,
ouais,
qui arrive. Et qui me rappelle deux choses, qui me rappelle un peu les années 60 avec Simon & Garfunkel, par exemple, pour la guitare. Et qui me rappelle aussi beaucoup Macadam Cowboy, qui est un film avec John Voight et Dustin Hoffman.
C'est super rigolo que tu parles de ça, parce que c'est une des couleurs qu'on avait. On en a parlé vachement, ce film de Macadam Cowboy.
Ouais.
Et ce mec un peu désespéré au milieu de la ville.
John Voight.
Ah, c'est super rigolo que tu parles de ça. Parce que,
ah, bah, c'est un de mes films préférés, ça. C'est, franchement, voilà, c'est un must, ce truc.
Quand on cherchait une couleur de l'album, ce nom-là est vachement revenu. Donc, c'est super rigolo que tu parles de ça.
Ah, bah, c'est un peu de télépathie, on va dire.
Ouais,
c'est vrai. Keep her from the alley. Alors, question idiote pour quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais fait d'anglais. quand tu composes en anglais, tu penses d'abord en français, tu traduis, ou tu penses en anglais, ça, les mots arrivent sur le papier comme ça?
Oh ben, non, ça dépend. Là, ça fait très longtemps que je n'ai pas écrit en anglais. Je suis plutôt dans quelque chose de... Là, j'aspire à écrire beaucoup plus en français. Les mots venaient plutôt comme ça, ouais.
D'accord. Voilà, cette guitare derrière là, qui aurait presque pu faire partie d'une bande son de film. Enfin, je trouve, hein, moi je vois les grands espaces là tout de suite, hein, on y est. Hein.
Ouais, bah c'est bien.
Voilà, ça s'appelle Girl from the North Country. Ça fait partie de l'album de Mr. Matt qui s'appelle Désespérément Optimiste, qu'on est en train de décortiquer comme ça tranquillement sur Radio 666 dans cette interview en direct. Je vous rappelle que vous pouvez également intervenir sur le Facebook Sweet Home Chicago si vous avez des questions. Je regarde très régulièrement et puis si j'en oublie, je le ferai à la fin. Et on va poursuivre cette écoute avec ce titre qui s'appelle Des lueurs. Avec ce pouce qui étouffe la corde là, qui est
ouais.
L'un des marques de fabrique de ton jeu de guitare.
Ouais, en fait. Je crois.
Des gestes pour dire qu'ils s'aiment, des lueurs, des contours, des malheurs, puis quelques mots d'amour, des sourires, des peintures, des plaisirs, des caresses pour être sûr, des regards. Des égards, puis quelques instants de détresse.
Dans ta façon d'écrire, il y a souvent des listes qui reviennent. C'est souvent une succession de choses comme ça, un petit peu un inventaire à la Prévert ou à la Boris Vian et un raton laveur, on pourrait dire, qui arrive. Et voilà, toute une liste de choses qui s'accumulent, ou peut-être, je ne sais pas, les événements d'une vie comme ça qui se succèdent en couches successives. C'est un trait de caractère chez toi. C'est quelque chose dont tu te rends compte ou pas d'ailleurs?
Ouais, là, comme ça, en l'écoutant un petit peu, peut-être. Moi, j'ai une manière d'écrire un peu à moi, en tout cas.
Bien sûr.
J'aime bien les. Des fois, cette chanson était partie du fait que je trouvais que des fois, un mot valait mieux qu'un grand discours.
Ah oui.
Et donc, je me disais, bah, tiens, juste avec des mots successifs, je pense qu'on pourrait raconter un peu la vie de plein de gens. Et la vie de plein de gens, c'est on se souvient finalement de nos instants d'émotion, de nos instants de tristesse, enfin, peu importe les émotions d'ailleurs, mais nos petits instants d'amour, c'est ça qu'ils font. Je crois que c'est tous ces mots-là, mis bout à bout, qui font une vie. C'est peut-être prétentieux de dire que je parle de la vie des gens, mais c'est une manière baquignette, en tout cas, de parler de la mienne, quoi.
Oui. Ah, c'était Des lueurs. Et puis je crois que le titre suivant, il a été créé grâce, je crois, à une marque de bière, c'est ça, hein? Fruits défendus. C'est pas une marque.
Fruits défendus, hein, fruits défendus. J'ai du mal du tout là-dessus. Fruits défendus, c'est une histoire un peu toute simple. C'est que j'étais un jour à Paris en train de boire une bière, justement.
Tiens donc.
Et j'étais en train de boire une bière et il y avait une sorte de grande porte cochère, c'était dans le 5e, pas loin du Panthéon. Et il y a une porte, une grande porte cochère qui s'est ouverte et de là est sortie une femme, une grande femme habillée en noir, qui avait l'air pleurée en fait. Elle avait des grandes traces de rimmel sous les yeux. D'ailleurs, ce titre s'est appelé très longtemps Rimmel. Et puis elle est partie un peu précipitamment au coin de la rue, puis elle a disparu. Et du coup, je me suis fait ma petite histoire en me disant, mais qu'est-ce qu'elle vient de vivre, qu'est-ce qui vient de la mettre dans cet état, qu'est-ce qu'elle vient de vivre, où elle va. Puis j'en ai créé une petite histoire, voilà.
C'est là qu'on se rend compte que c'est pas toujours hyper spontané. Je veux dire, ça peut aussi maturer un répertoire. Ça peut aussi se retravailler, repétrir carrément. Un peu quand même.
Bah, carrément. Là, c'était vraiment. Et puis, du coup, je parle de l'église de Paris parce que c'était le. Je crois que c'est pas de mémoire. Hein, je crois que c'était le 16 avril et c'était juste le lendemain de Notre-Dame a brûlé.
Ouais. 2019.
Donc, à la
ouais.
fin de cette ouais. chanson, je parle justement qu'elle a disparu derrière une église. Voilà. Donc, je me suis fait ma petite histoire. Je me suis fait ma petite histoire avec ça. Ouais.
Ça s'appelle Fruits défendus.
Je crois que la fragilité dans tous ces gestes. Cette plante presque fanée qui fait battre mon cœur.
J'ai une question un peu générale, Matt, sur la fabrication de cet album. Alors, on se rend bien compte que là, on a ton répertoire, bon, sauf les deux derniers titres, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que tu as eu entière liberté artistique pour tous les arrangements ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont été soit suggérées fortement, soit imposées?
Non, on m'a rien imposé. Concrètement, on m'a. Pourtant, je travaille avec une grosse maison de disques et tout ça. On m'a rien imposé. Moi, j'ai toujours été plutôt ouvert à ça. J'étais plutôt demandeur. En plus, là, j'ai eu la chance de bosser avec Dominique Blanc-Francard, qui est un des plus grands réalisateurs.
Un type que j'écoute depuis plus de 40 ans sur France Inter.
Ouais, exactement. Hein, ouais. Donc Dominique Blanc-Francard quand tu te retrouves dans son studio là-bas, et c'est un plaisir. Je lui fais un coucou s'il écoute aussi, parce que je l'ai eu par message il n'y a pas longtemps, et que je le vois très bientôt. D'être ouvert à ce que l'on me propose. Il y a des musiciens qui sont arrivés en studio, et être ouvert aussi à ce qu'ils proposent, parce que j'ai eu de la chance de bosser avec des gens hyper talentueux. Et puis, on garde la couleur que je voulais avoir au départ, et puis en mettant la patte de chacun finalement, parce que chacun il vient y mettre sa petite patte, et tu sais, quand on tourne, on boucle dans sa tête tout le temps les choses juste nous, on a tendance à se ressasser les mêmes choses, alors que quand t'es ouvert sur le discours de quelqu'un d'autre, tu te dis tiens, j'ai pas pensé à ça,
ouais,
et des fois t'as pas pensé à ça et ça marche. C'est un plaisir de bosser avec Gaëtan d'une part, avec Dominique Blanc-Francard. Et comment pas écouter des gens comme ça, parce que c'est des gens qui ont proposé des choses. Dominique, quand il montre le bouquin et qu'il te montre les albums qu'il a fait avec T-Rex ou avec Elton John ou avec Pink Floyd ou avec. Tu te dis bah je vais quand même l'écouter un petit peu. Et ce gars-là, vraiment, ça a été une vraie rencontre, parce que le gars a 74 ans et on dirait un enfant. Et j'adore ça. Je trouve que ça m'a fait un peu la même chose. J'ai eu la chance de partager la scène il n'y a pas longtemps avec Hugo Frey, qui a 91 ans.
Mais oui, c'est incroyable.
Et Hugo Frey, j'ai discuté avec lui un long moment et j'avais l'impression d'avoir un môme avec moi. J'aime bien les gens qui gardent un peu ce délire enfantin, quoi.
C'est clair, il était invité d'une émission de France Inter dans la semaine. C'est tout récent, hein. Et franchement, j'avais l'impression d'écouter un jeune chanteur qui.
Ouais, voilà. C'est chouette.
Il y a des gens comme ça qui ont une espèce d'aura.
Ouais, mais c'est chouette.
Et ils ont dû lire 15 000 fois Le Petit Prince, je sais pas. Enfin, en tout cas, si tu vois Dominique Blanc-Francard bientôt, tu pourras. Bon, il sait pas qui je suis, bien évidemment, mais tu peux quand même lui dire que, à cause de lui et à cause de Bernard Lenoir, c'est pour ça que je fais de la radio depuis 37 ans. Voilà, parce que c'est des garçons qui comptent aussi dans une vie. C'était pas une rencontre, c'était juste le fait d'être auditeur de ces gens-là. Pendant ce temps-là, on écoutait Une Part de Nous, et puis juste après, on en arrive à cette reprise assez inattendue de Cyndi Lauper, que tu interprètes au banjo avec une espèce de voilà, c'est très country, très bluegrass presque.
Ça a complètement décalé de chanter une chanson.
Excellent.
Cette chanson est passée d'un jour justement Fabrice Natas, mon producteur, qui me dit mais ça serait super rigolo ce genre de truc. On était en pleine mode du mouvement MeToo et ces choses-là.
Oui.
Et c'était un peu de se dire ouais, ben c'est bien toutes ces choses-là, c'est bien ce phénomène de libération, d'équité entre les hommes et les femmes, et voilà, c'est vraiment très bien. Mais il y avait aussi le truc de dire ouais, faut quand même penser un peu à délirer et rigoler, quoi. Et je trouvais ça rigolo justement dans la bouche d'un gars comme moi, barbu, chanter une chanson de nana, quoi.
Tu sais que Cyndi Lauper, il y a quelques années, elle a invité un guitariste que tu connais bien sur scène.
Peut-être.
B.B. King.
Ah, B.B., ok.
Mais ouais.
Elle avait fait un album de blues, ouais, je crois.
C'est fou, hein. Ah ouais. On écoute The Girl Just Want to Have Fun. Ça a beaucoup plu à Nagui, je crois. Hein.
Je crois que Nagui, ça lui a bien plu. Ouais. Nagui a été vraiment cool parce qu'il a adoré l'album. Et c'est pour ça que ce tour j'ai fait Taratata, il m'a fait jouer pas mal de morceaux, donc c'était chouette.
Dont celui-ci ?
Non, dont celui-ci, ouais. Non, je ne l'ai pas joué là-bas. Mais par contre, il l'a passé.
Ah, il me semble qu'il en a parlé. En tout cas, il a dû passer un bout du clip.
Ouais, il en a passé un bout. Ouais.
Je me souviens qu'il avait l'œil un petit peu halluciné, tu sais, quand il est dans la passion, ce gars-là, c'est pareil, tu sens, hein, que c'est pas un gars qui triche, Nagui. Hein,
non, c'est clair.
Et puis, On t'a vu tout récemment, il y a une vidéo qui tourne en ce moment avec cette fabuleuse reprise Georgia que tu fais depuis plusieurs années quand même, il faut bien le signaler. Quasiment tout seul, avec sur la version vidéo qui tourne avec juste le tromboniste de l'orchestre.
Ouais.
Georgia, donc Ray Charles bien sûr, qu'on écoute ici.
Georgia, the sound of you, just an old sweet song, keeps Georgia on my mind.
Matt, j'ai une question à propos de ce titre. Est-ce que tu as entendu d'autres versions, beaucoup d'autres versions de ces titres-là et qui t'ont plu et qui t'ont foutu autant les poils en dehors de celle de Ray Charles?
Non, je crois pas. J'ai écouté la version de Ray Charles,
oui.
Mais je crois pas avoir écouté d'autres versions. En tout cas, j'ai dû entendre les versions de Oscar Peterson au piano.
Ah oui,
voilà, sans le chant, parce que je suis un grand fan d'Oscar Peterson. C'est un aparté, mais donc non, je crois pas. Enfin, j'ai dû entendre quelques versions comme ça. Il y a une version qui m'avait bluffé vraiment une fois, c'était je ne sais pas qui c'est, parce que c'était un gars qui jouait dans la rue dans le sud de la France, qui avait fait une version qui était sublime. Et donc voilà, et moi cette chanson elle est à mon répertoire depuis pas mal de temps quoi.
Tu l'avais gravé avec un album des Mantelmen,
ouais,
si je me souviens bien.
Sur Against the Wind,
et
je la joue depuis très longtemps et elle fait. J'allais dire, elle est rentrée dans mon répertoire, quoi, simplement.
Alors là-dessus, on a une trompette bouchée. Sur la version live, il y a un trombone. C'est,
ouais.
c'est genre de choses un petit peu interchangeables. On peut faire évoluer comme ça les ambiances. ça, c'est ce genre de détail, parce que voilà, le fait d'avoir tel ou tel musicien, bon, à la limite, pourquoi pas. C'est pareil, c'est toi qui a demandé, c'était des suggestions.
Ouais, bah, en fait, là, sur l'émission Jazz à Nice, au début, je devais la chanter avec tout l'orchestre. En fait.
D'accord.
Et puis, Chanson, quand il a écouté les bandes, il a dit, mais en fait, ton truc, ça tient tout seul, et pourquoi? Et moi, dans l'idée, j'avais vraiment envie de. Je trouvais ça bien de me dire bah tiens, tout le monde joue avec un orchestre, bah moi si je la faisais tout seul c'était bien. Et puis de mettre un cuivre derrière, je trouvais ça. Je trouve que ça lui donne un côté un peu chaloupé, un côté un peu New Orleans qui me plaît bien quoi.
Ouais, New Orleans exactement, ouais, tout à fait. C'est pas pour déplaire à André Manoukian notamment.
Totalement.
Parce que là encore, à travers ses émissions de télé ou de radio, il nous parle très très régulièrement de
ouais,
ses influences New Orleans.
Je sais pas s'il écoute non plus, mais je lui fais beaucoup aussi, tiens.
On est déjà arrivé à la fin de cet album. Alors évidemment, on ne l'a pas écouté en entier. C'était des extraits comme ça. Mais je pense qu'on a un petit peu décortiqué tout cet univers qui fait partie de l'album Désespérément Optimiste. Est-ce que tu pourrais nous résumer la chose en nous disant, voilà, les gens qui vont acheter ce disque-là, vous allez l'acheter pour telle ou telle raison. Achetez-le parce que ça va correspondre à ce que vous aimez, si vous écoutez un tel.
Achetez-le. C'est difficile de dire ça. Achetez-le. Je vous conseille vivement de l'acheter. Non, mais en tout cas, c'est quelque chose. C'est un disque qui a été fait avec.
Avec amour, j'ai envie de dire.
Avec amour, est-ce que je suis en fait entièrement et en tout cas, c'est un album qui est honnête. J'ai essayé de faire quelque chose honnête qui me parle et bah, j'espère en tout cas que les gens qui l'achètent, ça leur plaira aussi, qu'ils y trouveront un petit peu de vérité, un petit peu de. Quand tu peux, je sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas, s'il trouve un peu de
franchise.
Ouais, de franchise et de choses vraies, avec un peu. On est tellement dans une époque où tout va vite, tout le monde parle de tout sans rien savoir. Une époque où tout va, ouais voilà, tout est un peu sans substance quoi. Moi j'ai essayé d'y mettre un petit peu de substance et s'ils y trouvent quelque chose de bon pour eux, bah ça me va.
J'ai encore deux, trois questions pour cette fin d'interview, ouais. Matt. Petite question de la part de Claire Lieb qui te demande si on aura le plaisir de te réentendre chanter en anglais sur un futur album. Elle termine par bisous de Clairette à roulette. Voilà,
c'est... Clairette à roulette, on va voir Claire. Je lui fais un gros bisou. Je l'ai toujours dit, rien n'est impossible. Donc, si tu attends que je chante une chanson en ouzbek, il y a peu de chances que j'ai le temps d'apprendre cette langue.
Même mais... ouzbek du Nord, même. Je ne suis pas sûr.
mais je veux dire, oui, bien sûr, j'ai toujours chanté en anglais. Je chante toujours en anglais de temps en temps. Tu sais, j'écris des chansons, mais j'aime bien aussi reprendre des trucs. J'aime bien aussi me faire plaisir et j'ai toujours cru que les chansons appartenaient à celui qui l'a chanté sur le moment, moi.
Je crois que les chansons appartiennent à ceux qui les écoutent, en fait, mais c'est un autre point de vue.
Oui, et ceux qui les écoutent aussi, certainement, mais... encore faut-il acheter cet album, mais vous
voilà, l'achetez. Voilà, bien sûr. Elle te demande aussi, Claire, est-ce qu'un album de reprise serait en préparation?
De reprise, non.
Non.
Alors, bonne réponse.
Il y a deux reprises hein, sur ce disque-là, mais un album de reprise.
Est-ce qu'il y a un album de reprise en préparation? De reprise, non.
Très bien. Je regarde rapidement sur le timeline Facebook Sweet Home Chicago, voir s'il y a d'autres questions, s'il y a eu d'autres questions d'auditeurs. Patrice Rayon qui met « Dommage que Mantelman se soit arrêté, ça me laisse un peu la même impression que les Beatles, quelque part. Si les Emilia font des longues pauses, pourrait-on imaginer un scénario similaire avec Mantelman ?»
Rien n'est impossible. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas du tout dans les plans, parce que je dirais que pour l'instant, Mantelman est définitivement arrêté.
Très bien. Une question qui n'en est pas une, c'est une remarque. Ronan qui met tout simplement... Je crois que vous allez vous rencontrer un jour, les gars, Ronan, ouais. Ronan et toi. Il met « Quel putain d'interprète !» C'est impressionnant comme tout se mélange dans sa voix, sa simplicité, son authenticité, sa sensibilité.
Ben écoute, si c'est ce genre de mots qui me résume, je signe, ça me va très bien. Merci beaucoup.
Une autre remarque de la part de Souris Mini qui dit « Quel bonheur d'écouter Mr. Matt. Il m'a aidé à surmonter mon cancer, puis ma dépression. Il me suit depuis que je l'ai découvert avec Mantelman. Chaque album, il y a une chanson qui me tient à cœur et qui m'aide. Donc merci Mr. Matt d'être toi, tout simplement. Lovely.
Merci. Merci, je suis très touché de ce genre de message, mais merci beaucoup.
Matt, c'est à mon tour de te remercier pour cette heure passée ensemble dans Sweet Home Chicago. Moi, je te souhaite tout le bonheur du monde et puis sûr que ton aura soit reconnue devant un public que tu mérites, c'est-à-dire de plus en plus nombreux. Je voulais savoir si quelque part la notoriété, c'est quelque chose que tu attendais ou tu t'es dit c'est le moment. Enfin, ça trottait dans la tête depuis longtemps, ça, le fait d'essayer de percer auprès du grand public finalement.
Je crois qu'on le fait tous. Ça serait mentir que de te dire si tu cherches pas ce genre de truc, tu fais de la musique dans ta chambre, quoi.
Ouais.
À partir du moment où tu fais un disque et que tu le mets en vente, tu as envie que le plus de gens possible t'écoutent. Moi bien sûr j'ai envie que le maximum de gens aient accès à ma musique et m'écoutent. Après, c'est pas la priorité. La priorité de ma vie, ce n'est pas d'être connu, quoi. C'est pas la priorité de ma vie que d'être. Je me comprends quand je dis
ça.
C'est un vrai plaisir que.
C'est
que,
pas ton objectif
qu'on,
premier.
Qu'on me reconnaisse dans la rue, c'est un vrai plaisir que le maximum de gens écoutent mes chansons et achètent mon disque et que je puisse faire des concerts, bien sûr. Moi, je fais ça d'abord parce que ça me rend heureux et que c'est moi, en fait. Je fais ça parce que c'est moi, que j'ai pas de plan B dans la vie.
Ouais.
Je fais ça parce que j'ai besoin de le faire. Je fais ça égoïstement d'abord pour moi, j'allais te dire. non, mais c'est vrai. Et puis pour partager quelque chose avec les gens. Moi, bien sûr, j'ai envie que de. Mais qui ne le fait pas? Les gens qui font des disques, ils ont envie qu'un maximum de gens les écoutent. Bien sûr, moi j'ai envie que la France entière, l'Europe entière, le monde entier m'écoute. Ça serait que de mentir.